12 interviews, 2 jours, un festival, c'est dû. Voilà.
Vous êtes en partance pour C'est dû avec le collectif The Soft Protest Digest.
Assis ou assise sur une banquette de 3, la navette démarre. Dedans, l'autoradio est à fond. On écoute les frères Morvan chanter Plinton Double et dehors, la campagne défile. Je suis obligée de crier pour que vous m'entendiez. Êtes-vous déjà venu à Sétu ? Je vous demande. Connaissez-vous des artistes du festival ? En tout cas, bienvenue. Sétu, c'est faire collectif pour un temps. Organisateurs, artistes, bénévoles viennent quelques jours en amont du festival. Ils travaillent, mangent, campent et vivent ensemble, chacun à leur rythme, à celui du bruit des animaux et de la météo. Nous sommes samedi midi, une nouvelle phase commence. On sent l'excitation de l'avant-spectacle. Les coulisses se referment et place aux propositions artistiques. Vous allez voir, on va passer un moment étrangement agréable. La nuit, il fera froid, le midi, on mangera bien. Et surtout, on verra plein de choses dépaysantes et réconfortantes. Mais avant de sortir se mêler à la foule, écoutons Nicky Sirkutson, Robin Bantini, Jérémy Rantier-Lando nous parler de leur collectif et de leur performance à Sétu.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Et du coup, je m'appelle Jérémy Rantier-Lando.
Moi, je m'appelle Robin Bantini.
And I'm Nicky Sirkutson.
Du coup, on est deux Français et du coup, Nicky est danoise. Et on est un collectif de recherche et on travaille sur des questions d'agriculture, de cuisine, de tradition et de patrimoine culturel et comment on peut travailler ces questions-là pour avoir un impact résilient sur le climat. Donc ça paraît assez compliqué comme ça, mais ce qu'on fait, nous, notre point de départ, c'est toujours l'idée comment on peut avoir un impact positif sur le climat et non pas un impact zéro, c'est-à-dire comment on peut apporter plus au climat, comment on peut adresser la question climatique en essayant d'avoir un impact positif. C'est-à-dire, c'est assez facile d'avoir un impact zéro, enfin c'est possible. Avoir un impact positif, ça veut dire redonner plus à la Terre que ce qu'on lui prend. Et du coup, ça on peut le faire par le choix des ingrédients qu'on utilise, par le type d'agriculture qu'on soutient. Et ce qu'on fait nous, c'est d'essayer déjà de sensibiliser les gens à ça et de nous sensibiliser nous-mêmes parce que c'est des questions qui sont complexes. Donc en fait, on est en recherche constante. On essaie de comprendre en fait l'impact qu'a la nourriture, l'alimentation et l'agriculture sur notre climat parce que c'est tellement complexe. On peut vraiment aborder la question de tous les côtés. Donc c'est un travail de recherche constant et on est déjà à 3 et même si on travaille tout le temps, on ne connaît pas tout, quoi. On a beau rencontrer des fermiers, etc., c'est compliqué. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye plus ou moins de sensibiliser les gens à ces questions-là et les gens qui voient notre travail pour qu'on puisse faire une recherche collective tous ensemble.
Écologie, cuisine, design, Nicky, Robin et Jérémy sont de curieux gourmands. Tous les trois, ils goûtent, goûtent, goûtent et puis, tout d'un coup, ils inventent des recettes qui mêlent le tout. À base de beurre, de pommes, de cidre, de danse et de récits, ils tâtonnent dans les paysages éliantais. La nourriture les a regroupés, et c'est entre autres grâce aux études de Nicky qu'ils se sont lancés dans cette aventure collective.
Et comment vous vous êtes rencontrés ?
Alors en fait, Jérémy et moi, Robin, on était tous les deux étudiants dans la même école à Paris. On a fait notre diplôme ensemble. Ensuite, on a continué à travailler ensemble. Et on a rencontré Nicky un peu plus tard, au moment où justement notre travail commençait à se tourner essentiellement vers les traditions culinaires, sans qu'on ait encore vraiment pris en compte l'aspect, écologique de la question. Et c'est à ce moment-là donc qu'on a rencontré Nikki. Et c'était vraiment, ça tombait vraiment très bien parce que Nikki, après ses études de design, a entamé des études d'agronomie pas loin de Copenhague. Donc ça nous permettait d'avoir une expertise et quelqu'un qui avait une sensibilité à ça que nous n'avions pas du tout. Et en plus, en même temps, bah, Nikki avait aussi cette sensibilité pour la cuisine. Elle a déjà travaillé sur ce médium, disons, avant de nous rencontrer. Donc on s'est très bien entendu et on a commencé à travailler tous les trois comme ça. Et on a constitué donc, ce collectif qui s'appelle The Soft Protest Digest. L'idée, c'est que c'est une protestation douce par la digestion donc, et à travers la cuisine et l'acte de manger. Parce que bon, on va pas non plus prétendre que on peut comment dire, avoir un impact complètement énorme qui remplace le militantisme juste par les choix d'ingrédients qu'on va faire. Il faut aussi manifester et la politique dans tout ça est quand même très importante, on va pas le nier, mais on pense que quand même dans les actes qu'on a au niveau alimentaire, on peut avoir un minimum d'impact, voilà, un minimum de protestation, disons.
Et en tout cas, ça peut être une porte d'entrée pour aller vers plus d'actions politiques ensuite.
Est-ce que vous menez des actions politiques autres que celles de votre cuisine ou de vos projets artistiques ?
On participe aux manifestations connues hein, autour du climat. Dès qu'on le peut, suivant les villes où on est, vu qu'on est dans trois villes différentes, Nikki à Copenhague, moi à Paris et Jérémy qui vit à Amsterdam.
L'autre jour, je me suis mise à rêver d'une grande manifestation pour les légumes délaissés en cuisine. Allez hop, tout le monde, un seau, un économe et on épluche. Pommes de terre, topinambours, rutabaga, panais et j'en passe. La manifestation se termine par un énorme tas de compost devant l'hôtel de ville où soupe et velouté sont distribués. Montrer comment et avec quoi en cuisine, c'est parfois plus puissant que parler ou manifester. Parce que la cuisine est aussi une forme de langage. On met des mots sans les vocaliser, on échange et on communique, et tout le monde peut le comprendre, même si elle n'est jamais uniforme. Nikki nous raconte comment elle, à un moment donné, a eu besoin de se tourner vers la nourriture.
I studied design before, as Ruben said, and in an art context as well. And then after that, I worked a bit as a designer, but I was longing for something different. I wanted to work more with my body. I was interested in food and food culture. I also went to do some volunteer work in farms, and I really liked it a lot.
Donc ce que Nikki disait, c'est qu'elle a étudié du coup le design aux Pays-Bas et qu'ensuite, quand elle a été diplômée, elle est retournée au Danemark et elle est rentrée dans une firme qui était surtout de la publicité et que très vite, elle s'est rendue compte que ça ne la satisfaisait pas en un sens. Je traduis à ma sauce, hein, mais qu'il lui fallait... retourner à quelque chose qui soit plus lié au corps et à faire quelque chose de ses mains, en fait. Du coup, elle a commencé à s'intéresser à des questions de cuisine, culinaire et aussi agricole.
And it was also in a time where the awareness towards environmentalism was getting more and more known, and also the IPCC reports were getting published, and they were really devastating. And I also started to involve myself more in a more activist way in environmentalism.
Donc c'était une époque où les questions climatiques étaient vraiment très présentes dans les médias et autour de nous, et le rapport de l'IPCC, alors c'est EPCC.
Ouais, ou le GIEC, je pense.
Le GIEC avait été publié et qui montrait vraiment quelles étaient nos perspectives futures vis-à-vis du climat. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est dit, bon, bah, il faut que je fasse quelque chose là-dedans, ou en tout cas que j'aborde ces questions-là directement, quoi.
Barzon ni ni zin kreiz amor, mi ringo, si signe la ligne, la langue, la lettre, Samson, mignonne, si violette, dans sa galonne, c'est signe bonbon et bonbon là, toujours là comme ça. C'est église, dit malaquette. Triver la pousse, oise avec. C'est guidé, Zimalaquette. Triver la pousse, oise avec. C'est signe la ligne, la langue, la lettre, chanson, mignonne, la ciolette, dans sa galonne. C'est signe bonbon et bonbon là, toujours là comme ça. Par la reine bouteille, voir l'ordi. J'ai le rené, piti, piti. Par la reine bouteille, voir l'ordi. Yel de René, piti, piti, si signe la ligne, la langue, la lettre, chanson, mignonne, la violette, dans sa galonne, si signe bonbon et bonbon là, toujours là comme ça.
Qu'est-ce que tu es en train de faire, Nara? What are you doing right now?
I'm sewing a belt for sowing seeds. As part of our performance, yeah, etc.
Je suis en train de coudre une ceinture. Pour éparpiller, semer des graines sur un champ, sur une bande de terre.
Est-ce que vous pouvez raconter un peu ce que vous allez faire au festival? Je ne sais pas qui veut prendre en charge. Peut-être toi, Nikki?
Oui.
You want to tell what you're going to do here in Setu?
Yes, I can do that. In farming school, I learned a technique in nature conservation, in where you can enhance biodiversity. By performing a bare soil strip.
Donc à l'école, quand j'étais en train d'étudier l'agronomie, j'ai appris qu'on pouvait. Il y avait une technique qui consistait à dénuder une bande de terre dans un champ et que ça permettait d'augmenter, ou en tout cas d'aider à une plus grande biodiversité.
And this bare soil strip will create a habitat for various insects and also solitary bees, which is bees who are not part of a beehive and they're not producing honey. And the decline of solitary bees is everywhere, of course.
En fait, cette bande de terre, ce qu'elle permet, c'est de créer un habitat pour plusieurs types d'insectes et notamment, c'est sur ces insectes que nous, on s'est plus concentré, mais il y a aussi beaucoup d'autres insectes qui sont typiques de la région bretonne. Mais on parle donc des abeilles solitaires, qui sont en fait des abeilles qui ne sont pas directement en lien avec l'humain parce qu'elles ne produisent pas de miel, donc on s'en occupe moins, alors que pourtant elles ont un impact. Elles permettent de polliniser beaucoup plus, je ne sais plus le chiffre exact, 5 fois plus.
Ça dépend des espèces, mais en gros, elles pollinisent toujours plus que les abeilles domestiques, les abeilles à miel.
Et du coup, ça nous permet de faire, c'est de créer un habitat pour qu'elles puissent. Elles peuvent pas rentrer dans des ruches, en fait, elles ont pas de ruches. Du coup, elles doivent se faire des petites maisons dans le sol, et c'est ce qu'elles font, qu'elles peuvent faire sur ce terrain.
Extrait de la traduction française de Jacob von Uxküll, Milieu animal et milieu humain, à la bibliothèque Rivage. Dans son environnement, nous voyons l'abeille alterner entre les fleurs écloses et celles en bouton. Si l'on place l'abeille dans son milieu, et que l'on transforme selon leur forme les fleurs en étoiles ou en croix, alors les bourgeons prendront la forme close de cercle. Il n'est pas besoin d'insister sur la signification biologique de cette propriété des abeilles nouvellement découverte. Pour l'abeille, seules les fleurs ont une signification et pas les boutons. Mais les rapports de signification sont, comme nous l'avons déjà vu à propos de la tique, l'unique guide certain pour l'exploration des milieux. Il est totalement accessoire de savoir si les formes éclatées ont physiologiquement plus d'effet. Au moyen de ces travaux, le problème de la forme est ramené à une formule des plus simples. Il suffit d'admettre que les cellules perceptives concernant le signal localisant sont structurées en deux groupes dans l'organe perceptif, les unes selon le modèle éclaté, les autres selon le modèle fermé. Il n'existe pas d'autre distinction. Si nous les rapportons au schème, de ces derniers surgissent alors des images perception générales, et qui, comme de belles recherches l'enseignent depuis peu, sont chez les abeilles remplies de couleurs et d'odeurs. Ni le ver de terre, ni la coquille Saint-Jacques, ni la tique ne sont en possession de tels modèles. Elles manquent tout en cela de véritables images-perceptions dans leur milieu.
On a pu faire un premier test, disons, justement, de cette technique que Nicky a appris. Nous, en fait, comment dire, c'est pas non, on se contente pas non plus de juste de, d'imaginer et de tester cette technique de dénuder un sol dans un terrain pour augmenter sa biodiversité. On a essayé de l'inclure dans un tout. Et ce tout est un peu, comment dire, inspiré de cérémonies, même de folklore qui tournent autour de l'agriculture dans beaucoup de régions de France et notamment en Bretagne. Donc on a cette bande de terre nue qu'on va dégager, qu'on va mettre en place sur le terrain de la ferme ici à Sétu. Et avec ça, on a une danse qui en fait va nous permettre de tasser la terre et donc de la préparer avec la semence justement dont parlait Nicky, de ces poches qui vont se vider de graines quand elle va passer sur la bande de terre. Et aussi ça va préparer le sol pour aider ces insectes à creuser leur tunnel où ils vivent et aussi où ils pondent leurs œufs pour se reproduire. Donc toutes ces abeilles solitaires qui sont en fait des centaines d'espèces, il y en a plein qui sont même pas identifiées. Donc c'est un peu, on en parle d'une façon générale, mais il y a plein de tailles, de formes différentes, etc. C'est un peu difficile de parler en détail d'une espèce en particulier, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup des abeilles solitaires. Et donc après avoir dansé donc, le plin, on a appris une danse bretonne qui sert d'habitude à niveler le sol dans les fermes, historiquement, où on invitait par exemple nos voisins à venir nous aider à niveler le sol d'une cour ou d'une ferme. Donc c'était la danse la plus idéale, on va dire, pour ce projet. Une fois qu'on aura invité les visiteurs de Sétu à danser sur cette bande de terre nue, on pourra déguster tous ensemble une sorte de pâtisserie qu'on a imaginée spécifiquement pour cette petite cérémonie.
Après, si je peux rajouter quelque chose, on ne prétend pas changer la biodiversité d'un champ complètement avec cette bande, ni on ne le fait pas non plus juste pour le geste artistique. Nous, ce qu'on trouve intéressant, et c'est pour ça qu'on a travaillé aussi sur des petits pamphlets qui contiennent des graines qu'on va donner à tous les spectateurs, c'est que l'idée, c'est de pousser les gens qui ont des jardins, les fermiers, les personnes qui sont en contact avec la nature et qui ont un terrain, à créer cette petite bande de terre. Parce qu'en fait, en faire juste une dans un champ, ça ne fait pas grand-chose. Mais voilà, l'idée, c'est de pas lancer un mouvement, mais en tout cas peut-être essayer que ça soit reproduit, parce que c'est un geste très simple, qui peut même être amusant à faire à plusieurs. Et j'imagine qu'il y a d'autres genres de danse dans notre région, et qu'on pourrait voir, apparaître ces bandes de terre dans notre région de France.
Est-ce que vous pouvez peut-être raconter un peu comment vous avez appréhendé ce territoire ici, comment vous avez appris des choses sur les 10 jours de résidence, voilà, enfin votre manière de rechercher un peu pour préparer ce projet.
Bah, notre premier contact, c'était Christian qui est propriétaire de la cidrerie Ménélique, qui est à quelques kilomètres d'ici. Et qui produit donc pas seulement du cidre, mais du jus de pomme, du pommeau et du lambic. Donc en fait, ça a été super intéressant de le rencontrer, parce que lui, bon, il est déjà dans une pratique biologique de l'agriculture, dans ses vergers de pommiers. Et on a pu, sur une parcelle qu'il a à côté de ses vergers, qui est un peu, disons, en jachère, tester et faire cette bande de terre nue et voir si pendant l'hiver il observe des abeilles solitaires qui s'y installent. On aura vraiment un retour de sa part et disons un suivi, parce que voilà, nous c'est la première fois finalement qu'on teste cette technique là chez quelqu'un, et ça, c'est vraiment intéressant de le faire dans plusieurs endroits différents si possible, pour voir quelles sont les réactions dans des localités différentes. Et c'est aussi intéressant parce qu'on travaille avec son pommeau pour la petite pâtisserie.
Quand tu parles de justement comment on peut
travailler sur un terroir qui n'est pas le nôtre. En fait, nous, on s'est rendu compte que le médium de la nourriture, c'est le meilleur, en fait, parce que... Enfin, c'est le meilleur. Ça marche très bien, parce que ce qu'on fait, c'est que, vu qu'on nourrit les gens et qu'on leur donne souvent des sucreries, on devient très vite très proche. Et ce qui se passe, c'est que en rencontrant Christian, on lui a fait goûter un sirop, il nous a donné des contacts d'autres gens, on a rencontré un cercle de danse qui nous a appris du coup cette danse pline. Et en fait, il y a toujours ce médium de la nourriture qui revient et qui est... Nous, en fait, on fait une sorte de petit don et les gens sont souvent assez contents de ça. Du coup, ils essayent de nous aider, quoi.
Le petit don, inventé pour leur performance à Sétu, se nomme le pain des abeilles solitaires. C'est une pâtisserie, le crumpet, servie avec du beurre et du sirop de pommeau, le fameux pommeau de Christian. Un peu caramélisé, gourmand et léger, vous vous régalerez après avoir tassé la terre sur le plin. Vous pouvez retrouver tous les détails de cette recette sur la page Wikipédia des Soft Protest Digest.
It's like the idea of terroir is also a form of branding, in
yeah,
a way.
For sure.
And in a way we're also working with branding or like storytelling around food, and we are also creating fictive traditions.
Donc ce que dit Nikki, c'est que ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que le terroir, c'est une sorte de narration, en fait. C'est un récit qui est inventé par les populations, par les institutions, et que nous, ce qu'on travaille... on joue avec ça, oui. En fait, on travaille ces questions de storytelling et on voit comment, d'une manière ou d'une autre, on peut introduire nos propres récits dans ces récits officiels, on va dire.
Et puis, quelque part, vous espérez que ces nouveaux récits, peut-être, se dispersent, parce que tu disais que peut-être cette danse du sol pourrait... arriver dans les jardins autour d'ici et puis dans d'autres régions. Du coup, ça serait comme redonner un peu des nouvelles formes à ce terroir ou à...
Bah après, nous, ce qu'on travaille souvent, c'est différentes façons de travailler la question du récit, parce que là, on va être très direct, on va dire, voilà, c'est quelque chose qu'on teste nous-mêmes et on espère que... se voir reproduire ces bandes de terre, mais aussi dans notre travail, on va jusqu'à mentir, en fait, à dire cette tradition existe alors qu'en fait on l'a inventée toute pièce. En fait, souvent toutes les traditions sont construites comme ça. C'est souvent, on a travaillé avec un historien de l'alimentation et on lui demandait, donc la tarte tatin, est-ce que c'est bien les sœurs tatin? Et il nous disait non, pas du tout, c'est sûr, certain. Vatel qui aurait inventé la crème chantilly. Il nous disait, Vatel, on n'est même pas sûr qu'il ait été cuisinier. En fait, tout n'est qu'une sorte de grosse construction. Et nous, on essaye de jouer avec ça, quoi.
Mais de la détourner à des fins qui nous semblent positives, c'est-à-dire pour privilégier la consommation de certains produits dans un endroit donné. Parce que ça peut avoir un impact, par exemple, sur le stockage du carbone dans les sols, sur, par exemple, disons, l'utilisation de produits qui vont augmenter la biodiversité dans une région, etc., etc.
Et donc la danse où on dit que c'est vraiment fait pour tasser le sol, c'est la danse pline. Okay. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait...
voilà. Tu as les pieds très serrés.
Ouais. Et en fait, c'est que ça tout long. Et c'est pour ça qu'on dit que cette danse-là servait à tasser le sol.
D'accord.
Et ça, c'est en fait, dans la danse, on a plusieurs temps. Donc là, c'est ce qu'on appelle donc le temps sain. Après, on a un bal. Et après, on a le ton double, pardon. Donc en fait, le bal, il se danse différemment.
Ah, ok.
Alors la danse se danse comme ça, le ton simple et le ton double se dansent de cette façon, mais après on a le bal. Vous voyez là, c'est long, hein. C'est... je sais pas combien de temps ça dure, mais... On se met à deux en fait pour les balles. Okay. Je peux vous apprendre le plin maintenant si vous voulez.
Yeah.
Like now.
Ok.
It's easy. Le plin, c'est facile. Ça va. Beaucoup plus dur en danse bretonne. C'est assez basique. C'est...
Ouais.
En fait, on l'apprend en disant ti-ti, gros minet.
Un, deux, partout. Ti-ti, gros minet. Ti-ti, gros minet. Ti-ti, gros minet.
Vous
Vous venez d'écouter la rencontre de Nicky, Robin et Jérémy avec Yuna Postic du Cercle Art Pro Mélénique. Vous pouvez retrouver l'intégralité du podcast en ligne sur la page Wikipédia du collectif.
C'est quoi ce bruit ? On dirait une abeille ou un moustique ! Oh non, ils vont nous piquer ! Tous sur les deux insectes ! Top ! Arrêtez le massacre !
Toi le moustique, tu me donnes des boutons !
Toi l'araignée, tu me stresses en tournant autour de mes oreilles !
Tu oublies que je transporte le pollen de fleur en fleur, je fabrique même le miel de tes tartines !
S'il vous plaît, écoutez-moi ! Vous savez, je connais des tribus de moustiques, je peux leur dire d'arrêter de venir vous piquer si vous nous laissez en vie !
Marché conclu !
L'émission se termine. Merci à Nicky, Robin et Jérémy pour cette interview menée le 30 août dernier à Ménez-Rosiane. Merci pour leurs choix musicaux, les frères Morvan et les sœurs Guadec. Merci à Guillaume Pellet pour la lecture du texte. Merci au podcast de l'Abeille et le Moustique de l'école Bergson. Et merci à toute l'équipe CETU. On se retrouve le mois prochain pour la découverte d'un nouvel univers. 12 interviews, 2 jours, un festival, CETU.